powerful. We run this
mother. La femme puissante est un genre de monstre.
Y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire, t'as du clito.
Revolution, baby.
Femme puissante, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit encore rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Et pourtant, le moment est venu pour les femmes d'assumer leur puissance, et c'est ce qu'on va voir tout cet été. Femme puissante, saison 3, avec une candidate à la présidentielle, une soprano du barreau, une réanimatrice qui sauve des vies, une actrice oscarisée, une écrivaine sulfureuse, et ce samedi, c'est une grande patronne qui est notre invitée. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
Guiloire, Guiloire. Merci.
Allez-y. Troisième, ouais.
Troisième.
Bienvenue. Bonjour.
Bienvenue. Merci de me recevoir chez vous.
Eh bien, je vous en prie, rentrez.
Merci beaucoup. Donc là, c'est votre appartement, vous y êtes depuis longtemps ?
À peu près 4 ans et demi, voilà.
Très bien. C'est chaleureux, il y a beaucoup d'œuvres d'art sur les murs.
C'est ma passion.
C'est votre passion ?
Ah oui, vraiment, la création artistique, c'est vraiment ma passion, oui.
On y va ?
Oui, bien sûr, je vous en prie. Est-ce que je peux vous offrir un café, un verre d'eau, quelque chose ?
Avec plaisir, un petit café, c'est parfait.
Voilà, très bien.
Pour son portrait, Libé a titré « L'inconnu du métro ». L'inconnu du métro est aujourd'hui l'une des rares grandes patronnes au sommet du monde économique qui compte encore bien peu de femmes. Après avoir été numéro 2 d'Air France, elle dirige aujourd'hui la RATP, gère 12 millions de voyageurs quotidiens, 65 000 salariés et un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros. Elle dit qu'elle est le pur produit de la méritocratie à la française. Famille modeste, rien ne l'a destinée à faire l'ENA, puis à diriger de grandes entreprises. Petite, lunettes rondes à la Harry Potter et sourire avenant, elle est passionnée de ski, fan de rock et d'art contemporain. Catherine Guiloire est notre invitée. Catherine Guiloire, à quel moment de votre vie vous êtes-vous sentie la plus puissante ?
Alors, je pense qu'en étant présidente d'un groupe comme la RATP, qui a un impact très fort en fait sur le quotidien de millions de gens tous les jours, on se sent une femme puissante. Et puis peut-être, sur le plan plus personnel, quand j'étais plus jeune et que je faisais des courses en ski, ça m'est arrivé, parce que la puissance c'est quoi hein ? C'est la transformation de l'énergie en force.
La puissance c'est la transformation de l'énergie en force.
Ouais.
Pas mal, celle-là on me l'avait pas sortie encore.
Et quand vous faites du ski en compétition, bah, ça m'est arrivé effectivement que dans des manches de géants, je sens cette espèce d'adrénaline qui se transforme en quelque chose et qui fait que vous arrivez à transformer votre force en quelque chose de très précis, la trajectoire. Donc, j'étais droguée à ça quand j'étais jeune.
Voilà, le ski, c'est essentiel pour vous.
Ouais.
Vous avez commencé jeune, vous avez fait de la compétition.
Ouais.
On va en reparler.
Ouais, ouais.
Mais il y a un moment où vous vous êtes sentie puissante,
ouais,
sur des skis.
Ouais. Et puis, après, il y a la puissance que je n'ai pas et qui, pour moi, est la plus importante, en fait, qui est la puissance de la création artistique.
Ça, et ça, vous ne l'avez pas.
Ouais.
Et c'est un manque pour vous. Vous auriez aimé...
Oui.
Pour vous, la plus grande des puissances, c'est la force
c'est
créatrice.
Oui, absolument. Pourquoi ? Parce qu'elle traverse les âges, elle traverse le temps. C'est pour moi une idée magnifique de se dire que quelqu'un a créé quelque chose il y a des milliers d'années, des centaines d'années, et que vous avez encore cette émotion devant une œuvre ou un beau bâtiment. Je pense au tombeau d'Adrien, par exemple, à Rome, qui a fait rêver des milliers d'architectes, qui, moi, me fait rêver. C'est le plus beau bâtiment pour moi au monde.
Le tombeau d'Adrien à Rome, pour vous, c'est le plus beau bâtiment au monde.
Ouais. Ah oui, c'est quelque chose de totalement spectaculaire. Tous les architectes sont fracassés devant ce bâtiment.
Et pour vous, ça, c'est une œuvre de puissance.
Oui, c'est une œuvre de puissance, absolument. À une époque, quand j'avais 20 ans, je voulais être commissaire-priseur. Et c'est un métier que j'ai pas pu faire parce qu'il fallait acheter une charge et mes parents, évidemment, pouvaient pas m'aider. C'était compliqué. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours habité.
Finalement, vous avez fait l'ENA, vous avez été... Je suis désolée.
On revient sur Terre.
On quitte du tombeau d'Adrien à l'ENA, avez fait l'ENA.
Ouais.
Vous avez été numéro 2 d'Air France, entre autres. Vous êtes maintenant à la tête de la grande entreprise de service public qui est la RATP.
Oui.
C'est vous qui gérez le transport de 12 millions de personnes.
Oui. Avant la crise, hein, parce que là, on est plutôt à 6 millions.
Oui, mais d'accord. Non, parce que je veux dire, c'est que s'il y a un problème, Paris s'arrête.
Absolument, et c'est une boîte de verre. Et vous le savez très bien en tant que journaliste. C'est-à-dire qu'on a droit à zéro défaut. C'est une entreprise qui se, et j'y tiens beaucoup, se gouverne dans la transparence.
Donc il ne faut pas se rater.
Oui, alors, c'est un peu une entreprise où, effectivement, vous êtes vraiment sur le grill tout le temps. Et je dors avec mon portable sur ma table de chevet.
Et vous êtes réveillée la nuit ?
Oui.
Souvent ?
Ça m'est arrivé.
Après l'ENA, vous auriez pu aller dans les grands corps de l'État, traditionnellement. Mmh. Vous auriez pu aller faire carrière à l'ONU, au FMI, ou pourquoi pas en politique. Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi ? Pourquoi vous avez choisi l'entreprise immédiatement ?
Immédiatement, c'est vrai. D'abord, j'ai été très bien formée. Quand je suis sortie de l'ENA, j'ai eu le grand privilège d'aller à la direction du Trésor, qui est une administration de mission. J'ai passé 2 ans à m'occuper des pays de l'Afrique zone franc et ensuite, quelque chose de très différent, les affaires bancaires. Mais j'ai tout de suite vu que j'étais pas une femme d'influence, que je voulais faire, en fait.
Vous trouviez
Et manager.
Vous vouliez manager, vous vouliez diriger.
Ouais. Et c'est vrai que j'ai été la première trésorienne à ne pas partir en mobilité, comme on le fait normalement.
Partir en mobilité, ça veut dire aller bosser au FMI.
Pendant 2 ans, et après vous réintégrez le trésor. C'est ça la règle. J'ai pas suivi la règle, en fait, puisque je suis partie chez Air France. Alors certes, m'occuper de quelque chose qui m'intéressait, qui était l'ouverture du capital d'Air France, et notamment à ses salariés, notamment aussi à ses pilotes, puisqu'on est sorti de cette opération avec... en faisant d'Air France l'entreprise avec le plus fort taux d'actionnariat salarié, 14%, a été dans les mains des salariés. Ça a d'ailleurs aligné les intérêts pendant un bon moment. Et au bout de 2 ans, j'ai été rappelée.
Et vous avez dit non ?
Yes, j'ai dit non.
Yes, vous avez dit non.
Oui, parce que je ne me voyais pas. Et pourtant, ça a été compliqué de dire non, parce que c'était une personnalité hyper charismatique.
Qui vous a proposé quoi ?
C'était Jean-Pierre Jouyet qui arrivait à la direction du Trésor et qui me proposait d'être auprès de lui, puisque j'étais la seule qui était partie en entreprise, en fait. Ça a été très dur, et donc j'ai mis mes affaires en ordre, comme on dit. J'ai dit non, je suis restée chez Air France, où j'ai fait une décennie, et j'ai démissionné de la fonction publique, remboursé ma pantoufle à l'État, la totale, quoi.
Ouais.
J'ai coupé le
parachute.
Et
vous dites, c'est dur. Vous dites, au fond, être une femme puissante, c'est aussi avoir parfois le courage de dire non.
Oui. Ça, c'est très important. Et je pense que le rationnel chez moi est très fort. Mais finalement, il y a toujours une part d'instinct qui prend le dessus au dernier moment pour faire un choix. Et là, j'ai eu l'instinct que ma vie, c'était
l'entreprise,
manager des équipes. Et qu'en fait, c'était ça mon destin.
Et pas aux fonctionnaires.
Donc. Ouais.
On peut être puissante en étant influente,
ouais.
On peut être puissante en étant
dans l'action
et dans le management.
Ouais. Ouais.
On peut être les deux aussi, sans doute.
On peut être les deux, oui. Alors évidemment, il arrive un moment où ça se rejoint. Voilà.
Quel a été votre moteur dans votre jeunesse ? Vous vouliez quoi ? Vous vouliez le pouvoir ? Vous vouliez la reconnaissance ? Vous vouliez l'argent ? Vous vouliez quoi ?
Quand j'étais jeune ?
Oui.
J'ai jamais rêvé de gloire, non. Ça, franchement, non. Mais d'avoir... une activité qui fait avancer les choses. Je suis très pragmatique, très concrète. Et ça, c'est important pour moi.
Donc, vous vouliez de l'influence aussi. Impactant, ça veut dire avoir de l'influence.
Oui, mais c'est plus dans le fait de construire. Mais de lien, qui crée du lien. Voilà.
Catherine Guilloire, quel objet incarne pour vous la puissance des femmes ?
Ça.
Un livre.
Ah,
lequel
oui.
avez-vous choisi ?
Alors j'ai choisi l'extraordinaire, je pèse mes mots, parce que je lis beaucoup de biographies d'écrivains de Josiane Savigno, la biographie de Marguerite Yourcenar.
Pourquoi extraordinaire et pourquoi elle incarnerait la puissance des femmes ?
Alors Marguerite Yourcenar, pour moi, c'est la puissance intellectuelle. Je suis née un 23 janvier et le 22 janvier 1981, c'était la première femme qui rentrait à l'Académie française. Et c'est pour moi une vie de femme réussie complètement. C'est-à-dire qu'indépendamment de sa puissance intellectuelle, elle a choisi tous les moments de sa vie. Elle a eu d'abord une enfance d'enfant unique, ce que je suis. Donc je sais ce que c'est d'être une fille unique. Alors évidemment, pas dans les mêmes conditions. Elle est en 1903 et elle a été éduquée par un père qui lui a donné toute son éducation classique. Mais ces moments avec les livres, dans son monde, dans l'imaginaire, c'est quelque chose que j'ai vraiment connu quand j'étais petite, ça. Et puis, elle était fidèle en amitié. Elle a une correspondance incroyable avec ses amis pendant toute la vie.
Vous c'était... aussi ?
Ouais, j'adore écrire.
Et écrire des lettres ?
Ouais. J'étais allée dans sa maison, à Mount Desert Island.
Vous êtes complètement fan.
Ah non. Et quand je suis rentrée dans le bureau de Marguerite Yourcenar, j'ai lu toute son œuvre. J'ai cru que j'allais me mettre à pleurer, et même encore maintenant en parlant, parce que la maison est modeste. Et j'ai découvert un truc génial, par exemple, cette femme est géniale. Moi, j'ai une mémoire visuelle photographique. Et en fait, pour préparer, par exemple, les mémoires d'Adrien ou l'œuvre noire, elle s'était fait des books, des scrapbooks, comme ferait un metteur en scène, dans lequel elle avait mis, par exemple, plein de cartes postales, de photos qu'elle avait prises, parce que c'est une immense voyageuse. Vous prenez la biographie de Yourcenar, vous prenez le tournis, elle était tout le temps en voyage, sauf évidemment une période de sa vie justement où elle était aux États-Unis assez longue avec Grace Frick, et où elle a pu moins voyager pour certaines raisons de santé de sa compagne. Mais c'était incroyable, j'ai pu ouvrir un de ces scrapbooks sur Adrien.
Et vous avez failli pleurer.
Ouais, parce que j'ai compris comment elle avait écrit le livre. Elle parle d'ailleurs de Zénon et d'Adrien comme des gens qu'elle connaît.
Donc elle est rentrée, elle a pénétré l'histoire.
Oui, et l'immense travail derrière. Parce que ce qui est fascinant, c'est ça, c'est que quand vous lisez le livre, ça coule. Mais derrière, il y a un travail de préparation. D'ailleurs, elle était une tuerie pour ses éditeurs. Elle était d'une précision millimétrique avec la langue française.
C'était une femme puissante, Marguerite Yourcenar.
Oh oui. Incontestablement, mais sur tous les plans, y compris sur le plan personnel.
Elle était puissante sur le plan personnel?
Elle a eu la vie qu'elle a voulu. Elle a vraiment choisi ses amours. Elle a été amoureuse pendant 10 ans d'André Fréniaud, qui n'était pas intéressé par la chose. Elle a transmuté ça dans des romans absolument extraordinaires. Ensuite, elle a vécu aux yeux de tout le monde, à une époque où c'était quand même compliqué avec
Grace
Frick. Elle a été moderne. Ça a été une femme qui a donné une grande partie de sa vie à la lutte contre la pollution, la défense des animaux. Évidemment, c'était très moderne à l'époque. Et puis, elle a tout pensé dans sa vie. Ça, c'est un truc de dingue, parce que même son rite funéraire était un truc qu'elle avait millimétré.
Elle avait préparé ses obsèques, préparé tout ce qu'il fallait dire.
Oui, mais d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a fait un mélange de rites amérindiens, japonais, enfin, un truc.
Pour vous, c'est l'image de la femme puissante, cette femme.
Oui. Et intellectuellement, je pense qu'elle l'était. D'ailleurs, d'Ormesson a fait un truc génial en la proposant.
C'est lui qui a milité, Jean d'Ormesson, pour qu'elle rentre, qu'elle soit la première femme à rentrer à l'Académie française. Sur l'ambition, écoutez ce que dit Christine Lagarde dans son interview Femme puissante. Christine Lagarde, qui a été la première femme patronne du FMI, première femme patronne de BCE, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas réussi sa vie. Écoutez ce qu'elle dit sur l'ambition quand je lui demande si elle est ambitieuse.
Oui.
C'est pas un mot qui me gêne, mais c'est pas un mot dans lequel je me reconnais. Non, vraiment. Et c'est pas parce qu'il me paraît dégradant ou indigne, c'est que j'ai pas le sentiment d'être ambitieuse.
Ce serait quoi, ambitieuse?
Ambitieuse, c'est quelqu'un qui a un plan de carrière, qui a déterminé l'objectif vers lequel elle va, qui sera prête à éliminer au passage tous ceux ou celles qui vont la gêner pour réaliser cet objectif. Moi, je sais que personne ne me croit quand je dis ça, mais j'ai jamais fait de plan de carrière, j'ai jamais eu pour ambition ultime d'arriver en haut de la pyramide, et j'ai pas de cadavre dans mes placards. Donc j'ai du mal à m'identifier à une ambition.
C'est très chouette ce qu'elle dit, mais si l'ambition c'est se dire que ça peut aller effectivement jusqu'à
écraser les autres,
là aussi je partage pas. Enfin, j'ai pas l'impression d'être arrivée là en ayant un cimetière derrière moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
vous êtes ambitieuse, vous?
Oui, mais moi,
vous l'assumez.
Oui, je l'assume parce que ça veut juste dire être exigeant par rapport à soi-même aussi. Ça, pour moi. Enfin, chacun sa définition d'ambition, avec tout le respect que je dois à Christine Lagarde, qui a une carrière encore bien plus éblouissante que la mienne. Mais c'est aussi une question de standard par rapport à soi. Et je crois que c'est une question de niveau d'exigence. Donc c'est ça que je mets derrière l'ambition. Et puis l'ambition collective. C'est-à-dire, encore une fois, le management, c'est avoir une ambition pour le collectif que vous menez. Donc il faut en avoir une.
Parce que vous êtes ambitieuse.
Mais bien sûr, si vous êtes à la tête d'une entreprise...
Les femmes ne doivent pas avoir peur de ce mot qui, pendant longtemps, a été suspect. C'était réservé aux hommes. Pour les hommes, être ambitieux, c'était bien. Pour les femmes, c'était bizarre. Elle est ambitieuse.
Absolument. Et c'est la même chose. Quand vous avez des hommes qui ont des forts caractères, on dit qu'ils sont forts. Et une femme qui a un fort caractère...
Hystérique.
Il arrive toujours les trois lettres que je déteste, c'est IEL. Pour caractériel.
Ah oui, voilà. Évidemment. Une femme puissante est une femme qui a réglé ses comptes avec la peur, dit Christiane Taubira. Mm-hmm. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être une imposture. Est-ce que vous avez eu peur, vous, et de quoi?
Oui, moi j'ai eu peur à un moment donné, la peur de l'échec. Bon, une fois que ça vous arrive, du coup c'est très salutaire.
La peur de l'échec, y a-t-il eu d'autres peurs?
Oui, j'ai bien sûr, mais ça, c'est des peurs plus personnelles. J'ai été hantée par... Quand j'étais petite fille, par exemple, j'ai été élevée par ma grand-mère maternelle, beaucoup, et j'avais peur qu'elle décède, qu'elle meure. Je l'ai gardée, Dieu merci, très longtemps. Mais le
la
premier
peur de
contact
la
avec la mort, ouais, c'est... maintenant je suis plus sereine par rapport à ça. Mais j'étais très troublée par ça. Quand j'ai commencé à comprendre que les gens que j'aimais allaient disparaître, c'était une peur d'enfant. J'ai eu du mal à surmonter pendant quelques temps.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
The Night, Patti Smith.
Vous avez le chat qui vous attend aussi, qui a mis son smoking.
Et on retrouve tout de suite Catherine Guilloire sur Inter.
Comment il s'appelle le chat ?
Il s'appelle Adriane.
Adriane.
Oui, voilà.
Tu veux du café, le chat ?
Hop. Il veut me voler mon café.
Non.
Méchant chat. Non, il a l'air gentil.
France Inter. Femme puissante. Léa Salamé.
Il y a un moment fondateur dans votre carrière. Je crois que vous avez 26 ans. Mmh. Vous êtes en stage en préfecture, juste après l'ENA. Mmh. Et vous vous retrouvez à gérer une catastrophe ferroviaire. Ouais. En quoi ce moment est capital dans ce que vous serez ensuite ?
Eh bien, justement, je crois que s'il y a un jour de ma vie où j'ai été utile, c'est celui-là. Parce que j'étais jeune stagiaire de l'ENA et j'ai été réveillée à 6h du matin par les pompiers. Et on m'a annoncé une catastrophe ferroviaire très importante en gare de Melun. Et j'étais DIRCAB de préfet par intérim. Et le préfet, je l'ai tout de suite réveillé, il m'a dit « Ben, Guilloire, c'est pour vous, hein. Vous allez diriger la cellule de crise. Moi, je vais avoir beaucoup probablement d'arrivées ministérielles à gérer. »
Donc c'est vous qui gérez les morts.
J'essaierai la cellule de crise
blessés.
Avec le SAMU, les pompiers, le colonel de gendarmerie. Et je suis allée sur le site de la catastrophe que le soir, puisque j'étais toute la journée absorbée. J'ai dû faire des médias pour détailler.
À 26 ans.
Ouais. Et après, d'ailleurs, je me suis posé beaucoup de questions, pour être tout à fait honnête. Je suis retournée à la préfecture pendant 10 ans, invitée par le préfet. J'ai reçu un casque des pompiers comme cadeau de départ de la préfecture. Et je me rappelle, c'était le préfet de place. Il m'avait dit, vous, Guilloire, vous pouvez pas faire autre chose que la préfectorale. Vous êtes vraiment fait pour ça, c'est pas possible.
Ah, et là,
etc.
Il vous a fait un peu douter.
Ouais. Et c'est vrai qu'à la sortie de l'école, finalement, je suis partie à Bercy, parce que j'estimais, mais je vais être très cash, que ma vie était pas compatible avec le fait de vivre en préfecture, sous le regard d'autrui toute la journée. Parce que quand vous êtes dans le métier de la préfectorale, votre vie privée n'existe pas. Vous vivez au milieu de la préfecture, on vient vous repasser vos culottes. Je veux dire, c'est un truc... Moi, je voulais pas de ça, voilà. Mais le métier en lui-même était extraordinaire, voilà. Donc je garde un
pour repasser vos culottes, vous avez choisi Bercy plutôt que la préfectorale. Voilà. Il m'a fallu beaucoup plus démontrer pour y arriver que certains collègues hommes. Honnêtement, le prix à payer est très lourd, avez-vous dit. Quel prix à payer?
Ben, par rapport à la volonté de casser le plafond de verre, c'est vrai que le parcours, si vous voulez, c'est un peu comme on fait faire le Mont Blanc à certains, et pour les femmes, faut plutôt faire le K2 ou l'Everest. Hein. C'est-à-dire que
on fait, dans ma génération, on vous a demandé toujours beaucoup plus, toujours beaucoup plus à poste égal qu'un homme.
Ouais, et surtout, j'ai fait des postes difficiles parce que des postes sur lesquels c'était parfois ingrat. Notamment, ça m'est arrivé chez Air France. Hein. Et quand j'avais à un moment donné levé la main pour dire bah, « moi aussi, je voudrais bien être patron d'une zone commerciale », on m'avait dit « mais Guilmoire, vous savez faire des trucs super difficiles, on a encore ça à te faire faire ».
On en demandera toujours plus aux femmes qu'aux hommes, dites-vous. Françoise Giroud le dit aussi, on est en 1970 à l'ORTF.
Il reste un écart très grand entre la situation des femmes et la situation des hommes. Ce sexe social, il nous colle à la peau. Et je le sens, monsieur, là, en face de vous. Je vais vous en donner un exemple. Nous ne sommes pas armes égales. Si je bafouille, si je me trompe, si je cite des chiffres faux, que dira-t-on après cette émission? On dira, ben voyons, bien sûr, les femmes, on ne peut pas compter sur elles. Et mon indignité...
Personne ne pensera ça en voyant.
Mais si, mon indignité rejaillira sur toutes les femmes. On se dira, ce qui serait injuste, parce que peut-être une autre aurait pu très bien faire le poids, comme on dit, en face de vous. Mais si vous, vous bafouillez, si vous n'êtes pas très bon, que dira-t-on? On dira, ben ce monsieur Fouillet, il n'était pas formidable ce soir. Et aucun garde des Sceaux, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans l'avenir, n'emportera l'indignité, ni aucun homme.
C'est rude. Mais ça reste en partie vrai. Je pense que les mentalités bougent. Hein. Mmh. On n'est quand même pas...
On n'est plus en 1970.
On n'est plus en 1970, faut pas non plus... Mais ça reste quand même vrai. J'allais dire, quand vous arrivez dans l'air raréfié du sommet... Vous êtes scruté et vous n'avez pas beaucoup droit à l'erreur, ça c'est certain. Ouais.
Alors... Christine Lagarde dit qu'elle remarque souvent que dans les sommets ou dans les réunions, quand une femme commence à parler, les hommes écoutent moins, commencent à parler entre eux, à bavarder entre eux, et qu'elle doit toujours taper sur son micro pour rappeler l'attention parce que, je ne sais pas pourquoi, mais une femme économiste ou une femme ministre de l'économie, sa parole est moins écoutée qu'une parole d'homme.
Je pense que malheureusement c'est encore vrai, ouais. C'est encore vrai et c'est quelque chose qui ne peut se travailler que par la mixité des équipes de direction, honnêtement. Hein. À la RATP, on a un COMEX qui est paritaire. Je pense que quand les femmes du COMEX s'expriment, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est vrai que l'environnement dans lequel elle a évolué, qui est celui que j'ai connu, parce que quand j'ai fait 12 ans directeur financier de Société Cotée, j'étais la première femme à rentrer au Club des 30, qui est le club des directeurs financiers de Paris. C'était en 2006 ou 2007.
Vous étiez la seule femme à ce moment-là.
Ouais. Mmh. J'en ai vu arriver, Dieu merci, après moi. Alors après, il y a l'effet inverse. Hein. Il ne faut pas caricaturer. Après, une fois que vous êtes installée, etc., ben, au contraire, vous rayonnez, puisque...
Voilà. Vous êtes la seule femme.
Et j'allais dire, et là, il y a le piège. J'ai eu une conversation au sein du Women's Forum dans lequel je ne m'étais pas fait que des copines, parce que j'avais dit, une fois qu'on est en haut, notre plus grand devoir, c'est de tendre la main en dessous pour essayer de faire monter les autres.
Les autres
et,
femmes.
Voilà, les autres femmes. Et pas de se refermer dans le...
Dans le côté princesse seule,
truc.
Voilà. Seule au milieu des
parce
hommes.
Parce que les femmes peuvent ça, être vous de l'avez... terribles ennemis pour les femmes elles-mêmes.
Hein. Ah, c'est ce que j'allais vous demander.
Oui, oui, absolument.
Donc parce il ne faut que pas avoir un regard angélique sur
non,
les femmes
pas du
non plus.
Non, plus. Non, et ça, je veux vraiment le dire. Parce que ce côté angélique ou... au contraire, cet effet de rareté peut entraîner des fois des comportements...
Le piège, c'est de se dire, je suis la seule femme au milieu de 10 hommes. Et c'est très confortable et très agréable.
Restons comme ça.
Restons comme ça.
Voilà. Et ça,
et
pour
vous
moi...
avez eu, vous, cette tentation?
Ah non, pas du tout. Au contraire, quand j'étais chez Air France, j'ai toujours essayé à compétence égale de promouvoir des femmes autour de moi. Et puis bon, je suis arrivée à la RATP, voilà. Je veux dire, 4 ans après, on est en paritaire quand même. Hein.
Oui.
Donc non, non. Enfin, à compétence égale... Non,
à compétence égale, vous embauchez une femme de préférence ou pas forcément?
Ben, ça dépend l'équilibre aussi qu'il y a à gérer.
Faut pas qu'il y en ait trop non plus.
Non, quand on parle parle de diversité, c'est tout l'art du management, c'est d'arriver à faire les bonnes.
Enfin, dans le transport, dans le secteur du transport, il n'y a pas beaucoup de femmes.
Ah, quand même. Attendez, j'ai succédé à Elisabeth Borne, Valérie Pécresse, en présidente de région, a dans la main Île-de-France Mobilité.
Alors justement, Valérie Pécresse, pour elle, il y a une manière féminine d'exercer le pouvoir. Écoutez-la, elle était à la conférence Elle Campus.
Ce dont je me suis rendu compte en étant présidente de région, c'est qu'on ne dirige pas de la même façon quand on est une femme.
Ouais.
Et je ne le croyais pas avant.
Expliquez-moi ça.
Eh bien, typiquement, la précarité menstruelle, on est beaucoup plus dans le concret. Mm-hmm. On est beaucoup plus dans le faire. On est beaucoup plus dans la vie quotidienne. Et je crois que ce qui crée la défiance vis-à-vis des politiques, c'est d'avoir le sentiment qu'ils sont décalés par rapport à notre vie.
Bah, je suis assez d'accord, hein, honnêtement, avec ce qu'elle dit. Alors, bon, je n'avais pas pris forcément cet exemple-là, mais en tant que politique, je comprends qu'elle le prenne. Mais oui, il y a
les femmes sont plus concrètes, précises.
Il y a cette capacité à arrimer le stratégique et le concret, parce que c'est ça quand même. Hein, c'est pas uniquement. Je veux pas non plus qu'on nous fasse prendre pour des reines, j'allais dire, de la résolution de problèmes
concrets.
Et pourquoi pas domestiques aussi, hein, tant qu'on y est.
Donc, c'est-à-dire incapable d'abstraction, voilà, de stratégie et de vision.
Voilà, exactement. Mais ce qui est important, un bon dirigeant aujourd'hui, c'est un dirigeant qui a une boussole stratégique, qui l'a fait partager à son équipe. Et je suis désolée de le dire, mais en tout cas, c'est ma vision du management, surtout quand on est à la tête d'une entreprise comme la RATP. Il faut savoir forer dans l'opérationnel et à un moment donné descendre et vérifier.
Et les femmes ont plus de talent pour ça que les hommes.
Moi, je trouve que il y a quand même cette plasticité est quand même forte.
Est-ce qu'elles ont moins d'ego que les hommes? Anne Méo me disait, elles ont moins d'ego que les hommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou c'est faux, c'est fantasmer la vision de la femme?
Je pense qu'elle a quand même un peu raison. Ouais. Tout est une question de personnalité, mais c'est vrai que les femmes que je connais qui sont à la tête d'entreprises de bonne taille restent toutes très normal, en fait, hein. Honnêtement.
Le pouvoir nous fait moins péter les plombs,
oui,
que les hommes, vous diriez.
Oui, oui. On est moins focalisé que sur ça aussi. En tout cas, c'est ma vision personnelle et c'est ce que je ressens, hein.
Catherine Guilloire, une bonne patronne est-elle une patronne qui est crainte?
Il faut avoir de l'autorité.
Et comment vous vous imposez dans un milieu d'hommes? Comment vous faites respecter? Est-ce qu'il faut imposer un rapport de force immédiatement?
Non, pas forcément. Mais en revanche, il faut être capable parfois de prendre des décisions difficiles. Oui, il ne faut pas apparaître comme quelqu'un de mou, quand on dirait une entreprise. Hein.
Vous pourriez être autoritaire aussi?
Oui, je pense que ça peut m'arriver. Mais pour moi, c'est plus une question liée à la surcharge de travail, à la fatigue.
Ça vous arrive de rembarrer un collègue un peu...
Non, ça, c'est pas ce que j'appelle autoritaire. C'est par exemple d'affirmer très fortement ses convictions. De là à traiter mal une personne, ça c'est autre chose pour moi. C'est un manque de courtoisie, c'est autre chose encore.
Mais donc il faut imposer une autorité, il faut pas avoir peur de cela.
Non,
quand on
non,
est
mais
une
pour
femme.
Diriger une entreprise, non. Après, il y a plusieurs façons de l'imposer. L'imposer parce que vous montrez que vous avez vous aussi travaillé le dossier, que je pense qu'il est important d'écouter. Mmh. C'est très 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 important l'écoute. Mais à la fin des fins, il faut bien que quelqu'un prenne la décision ultime. Et c'est là où être numéro 1, et là, j'ai été numéro 2, je vois maintenant très très bien la différence.
Quelle est la différence entre numéro 2 et numéro 1?
Elle est fondamentale parce que quand j'ai été numéro 2, je préparais les arbitrages pour faire que chacun s'exprime, etc. Et puis vous faites en sorte d'aider le patron à réussir son exécution. À la fin, quand vous êtes numéro 1, la décision ultime, c'est la vôtre. Donc là, c'est votre conscience, c'est votre expérience qui joue. Voilà, faut pas se tromper. Donc il faut toujours avoir cette vision 360 degrés. C'est toute cette complexité et cette multidimension qu'il faut gérer.
Malgré tout, Catherine Guilloire, malgré les lois, malgré les volontés politiques, malgré la volonté économique même, il reste très peu de femmes à la tête de grandes entreprises en France, au sommet du monde économique. Je vous dis pas des femmes patronnes, il y en a beaucoup, mais je parle du sommet du monde économique. Comme dirait la ministre Elisabeth Moreno, le CAC 40, ça reste un club de mecs en costume gris.
Les femmes continuent d'être confrontées à un vrai plafond de verre qui les exclut trop souvent des autres instances de direction, ces lieux où sont réellement prises les décisions de l'entreprise. Au moment où je vous parle, permettez-moi de déplorer que le CAC 40 reste un club de mecs en costume gris. 12 entreprises ne comptent aucune femme au sein de leurs plus hautes instances de direction. Et il n'y a aujourd'hui qu'une seule femme à la tête de l'une des 40 plus grandes entreprises françaises. Il y a 30 ans, lorsque j'ai démarré ma carrière professionnelle, je n'aurais jamais cru une seule seconde que le CAC 40 reste ce club réservé aux hommes.
C'est factuel, hein. Aujourd'hui, voilà, il y en a qu'une,
une femme
c'est
sur
vrai.
40. Mais pourquoi vous êtes si peu nombreuses à accéder aux postes les plus prestigieux, que ce soit le CAC 40 ou les 120 premières entreprises? De plus en plus, les femmes prennent le pouvoir dans le monde politique, dans le monde journalistique, moi je vous parle des médias, oui. À des postes, parce que c'est pas tant la parité, c'est pas un nombre de chiffres, il y a autant de femmes que d'hommes, mais quand même, quand on arrive dans le monde économique, on a l'impression que sur le haut du panier, ça reste une affaire d'hommes.
Je pense que ça va, la génération suivante sera préparée et ça va venir. Nous, on a été un peu, finalement, les premières femmes à y arriver. Quand je dis nous, c'est quelques-unes d'entre nous. Et encore, je veux dire, je vais être encore plus sévère, si vous enlevez celles qui ont, j'allais dire, une attache familiale avec l'entreprise et qui sont pas arrivées de l'extérieur, vous voyez, le chiffre peut même être encore plus étroit. Mais de la même façon, je me souviens, de revenir en arrière, mais en 2005, justement, on avait des grands débats sur les quotas. Et moi, je me souviens qu'on était contre le quota. Cette fois-ci, c'était dans les conseils d'administration.
Il faut qu'on nous prenne pour nos compétences.
Ouais, exactement, etc. OK, alors, ça, au bout de 4 ans, tout le monde, enfin, moi la première, j'ai retourné complètement
votre
ma veste.
Cutie.
Ah ouais, mais bien entendu, parce que ça allait tellement lentement qu'on allait se retrouver au 22e siècle avec 40% de femmes dans les conseils d'administration.
C'est étonnant, alors, ça, l'évolution de beaucoup de femmes qui étaient archi contre les quotas et qui disent,
oui,
au fond, c'est pas la meilleure des solutions, mais il n'y a pas de choix.
On a le droit de se tromper dans la vie, hein, et surtout d'avoir une mauvaise analyse de la situation. Et en fait, la loi Copé-Zimmermann, c'était vraiment la chose à faire, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de 40% maintenant en France de femmes dans les conseils d'administration, y compris des CAC 40 et des grandes entreprises. Alors évidemment, j'ai le privilège et l'honneur d'être au conseil d'administration d'Airbus depuis 2016. Je préside le comité d'audit et je suis aussi président du comité d'audit et au conseil de surveillance de KPN, qui est l'opérateur de télécom néerlandais, où je suis d'ailleurs la seule française. Pas la seule femme, hein, parce qu'aux Pays-Bas, mais la seule française. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça se passe très 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 bien. Les entreprises, probablement, si on faisait le film en arrière, se dirait, mais pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Là où c'est plus compliqué, effectivement, c'est sur les CODIR et les COMEX, parce que effectivement, il faut avoir les talents préparés pour
pourquoi
pouvoir.
Pourquoi il n'y a pas assez de talents?
Il faut pas se voiler la face. Moi, je me souviens quand j'étais à la DRH d'Air France, j'avais commencé à mettre en place le plan des hauts potentiels, et en fait, le moment où vous grimpez dans la catégorie dirigeant, c'est le moment où les femmes avaient leurs enfants.
Ont des enfants, et voilà, on y revient.
Et donc, dès que vous commencez à avoir une politique, moi j'avais décalé de 5 ans ce qui s'appelait le haut potentiel, parce qu'évidemment, c'est le moment où les mecs prennent l'ascenseur direction le 9e étage, et bah, les congés maternité vous retardent, et vous, vous restez au 6e, au 7e, au 8e, mais vous franchissez jamais l'étage de la direction. Donc il faut donner cette souplesse au sein des entreprises, de dire... Les hauts potentiels, on s'en fout que ça s'arrête à 40 ou à 45, c'est pas très grave. Mais en revanche, il faut faire en sorte que les femmes aient la possibilité d'avoir une vie duale. Et ça, c'est vraiment très, très important.
Mais cette inégalité qui est une inégalité qu'on ne pourra pas changer. On peut un petit peu la décaler avec la congélation des ovocytes, où une femme peut tomber enceinte peut-être plus à 45 ans qu'à 35. Mais en gros, si on regarde les carrières pour un homme et pour une femme, tu fais ta carrière entre, je dirais, 30 et 40 ans.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est la décennie où une femme va avoir un enfant.
Mais je pense que c'est en train de changer, parce que je pense que les entreprises s'aperçoivent que si elles veulent justement avoir des équipes féminines motivées, etc., faut changer les règles du jeu. Donc, moi, je suis très optimiste sur l'avenir. Et puis, je pense que...
C'est moins un problème de tomber enceinte dans une entreprise.
Ah oui.
Le salaire, les hommes sont toujours payés 9% de plus que les femmes à poste égal en France. Quel conseil vous donnez aux femmes? Ne pas avoir peur de demander des augmentations.
Sûr.
Ça, c'est quelque
sûr.
Chose qui continue, et ça, je le vois dans les interviews que je fais, qui continue de bloquer les femmes.
Mais non, mais...
Christine Lagarde qui m'a dit, moi, j'ai toujours eu du mal à demander une augmentation.
Ah oui, non, mais alors là, il faut se libérer de ça complètement. Enfin, je veux dire, c'est d'ailleurs un dernier truc du patriarcat, c'est-à-dire de vous expliquer que vous êtes une femme, qu'on va vous donner le job, mais ben, on fait cet effort, donc, voyez, sur le reste, soyez plus conciliants. Non, c'est un package, comme disent les Américains, ça vient avec tout. Il n'y a aucune raison qu'une femme qui soit dirigeante soit moins payée qu'un homme. Aucune, absolument aucune. Enfin, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens. Alors après, Ce qui est vrai, moi je l'ai vu au travers de mon parcours, j'ai toujours été frappée que chaque fois que j'allais chercher une femme pour la promouvoir, c'est vrai qu'il y avait toujours ce moment que vous mentionnez au début de l'interview, qui est de dire, vous êtes sûre, je vais y arriver, etc. Il y a une vraie capacité des femmes à s'auto,
flageller, rabaisser.
Non, c'est pas ça. C'est que tout le monde n'a pas le même niveau de confiance en soi. Je pense que ce qu'il faut vraiment dans l'éducation, revoir complètement, c'est vraiment cette confiance, elle se gagne dans l'enfance aussi, hein. Et donc,
Et elle se perd dans l'enfance.
Et elle se perd aussi. Enfin, c'est tout. Enfin, beaucoup de choses se déterminent à ce moment-là.
L'enfance décide, dit Sartre.
Mais je suis un peu d'accord avec ça, honnêtement. Et donc, je pense qu'il faut se libérer de ça. C'est normal qu'on a des responsabilités, d'avoir la rémunération qui va avec. Et c'est même un signe de faiblesse de ne pas le faire. Enfin, je veux dire, décontraction totale à ce niveau-là, moi.
Le ZAP.
Plus proactive, plus proche du client et surtout plus standardisée.
Recevez donc ce matin la PDG de la RATP, Catherine Guillois.
On a formé nos personnels.
Bonjour Catherine Guillois.
Je crois qu'on peut dire que l'année 2020 pour le groupe RATP, ça a été une année à la fois de résilience et de preuve.
Bastille.
Mais là j'avais 30 ans, j'étais à Bercy. Ça faisait 7 ans que j'avais mon monitorat et j'avais envie de reprendre et j'ai fait une folie pendant 2 ans.
Est-ce que ça vous a servi de faire du ski en compétition.
Mais évidemment, c'est vraiment un des objectifs de l'année de monter en gamme.
C'est un sacré défi pour la patronne de la RATP. Voici Catherine Guillois.
22 ans qu'on n'avait pas percé un tunnel pour le métro parisien et construit de nouvelles stations. C'était la ligne 1498.
C'est un défi humain et technologique qu'on va réaliser et qu'on réalise.
Vous avez creusé, enfin pas vous, hein, mais 5 km de tunnel.
Une entreprise de transport, la mère de toutes les obligations, c'est la sécurité.
Je vous demande d'accueillir Catherine Guillois, présidente du groupe RATP.
Engagement.
Votre énergie fait beaucoup de bien et donne la pêche.
Quand vous faites de la compète, vous ne savez jamais quelle météo il va faire et ça peut faire moins 30.
Je suis persuadée que Catherine Guillois, qui m'a succédé, saura prendre les bonnes décisions.
On a un partenariat aussi avec Airbus, là on voit un volocoptère, je pense. Une leçon d'adaptabilité permanente. Et la troisième chose, c'est gestion du stress.
Ce n'est pas de la communication, je tiens à le dire.
On a peut-être parfois une vision du ski un peu sympathique, mais c'est pas pour dire
allez-y.
Mise. Ils ont assuré grave.
Sympa. J'adore, il y a beaucoup de chaleur en fait.
Vous avez souri quand vous avez entendu la voix dans le ZAP d'Elisabeth Borne. Ministre, comme Elisabeth Borne qui venait du privé ou Muriel Pénicaud qui venait du privé, ça vous tente? Ça vous tenterait?
Ah non, je suis pas du tout faite pour ça.
Vous voyez?
Ben non, parce que c'est justement un poste d'influence, etc.
Non, c'est décidé aussi.
Ah oui, elle décide énormément de choses. Non, je pense que là, c'est aller trop loin. C'est vraiment l'entreprise, mon truc. C'est une mini-France, hein, gérer la RATP déjà.
Alors justement, la mini-France, la lutte contre le harcèlement se joue aussi dans le métro.
Oui.
Il y a les frotteurs du métro, on a beaucoup parlé, ceux qui se collent à vous, il y a les regards un peu lourds. Mm. Presque toutes les femmes ont quelque chose à raconter sur un moment de malaise dans le métro, je pense. Vous avez pris beaucoup de mesures, vous n'allez pas me refaire le catalogue des mesures.
Non, non.
Mais est-ce que vous diriez que, avec le mouvement MeToo, avec Balance ton port, avec ce qui s'est passé il y a 4-5 ans, il y en a moins? Moins de frotteurs du métro, de regards. Est-ce que les hommes réfléchissent à deux fois?
Oui, alors, pardon, je réponds à la deuxième partie de la question avant la première. Parce que savoir s'il y en a moins, c'est compliqué, parce que les statistiques, c'est les dépôts de plaintes.
Et les plaintes, il y en a de plus en plus ou de moins en moins?
Il y en a. Il y en a. Si. Là, il y a une forme de libération. Et c'est un peu la même chose que la libération de la parole avec MeToo. Pour moi, MeToo, il y a deux effets à MeToo. Il y a un effet curatif immédiat, une forme, faut bien le dire, de catharsis dans le mouvement MeToo. Mais il y a un effet préventif qui, à mon avis, est au moins aussi important que le curatif. C'est-à-dire que là, il y a un monde d'avant et un monde d'après, hein, MeToo.
Pour vous, c'est une vraie révolution?
Oui. Ah oui, incontestablement, ouais. Et parce que vous le disiez vous-même dans la question, c'est-à-dire que maintenant, ils ne peuvent pas ne pas savoir. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que je pense que du coup, j'allais dire, ça réfrène quand même certains de passer à l'acte. Alors après, évidemment, moi, ce que j'ai essayé de faire, et là, on a vraiment, j'ai quelqu'un qui regarde volet interne, qui est une femme, et maintenant, j'ai vraiment dédié une seconde personnalité très forte qui s'occupe du harcèlement dans les transports pour nous et qui met en place toute une série de mesures. Et on regarde ça tous les 3 mois au niveau du COMEX, hein, c'est-à-dire à la fois l'interne et l'externe, comment avancent les plans d'action,
etc. Donc c'est une vraie priorité.
Ah oui.
Et ça, ça a changé.
Ah oui.
Avec MeToo.
Oui.
Vous avez subi du harcèlement déjà?
Oui, mais que j'ai géré. parce que, en fait, la chose qui m'a le plus marquée, c'est quand j'étais préadolescente, ma mère a été harcelée sexuellement à son travail. Et mon père venait de changer de job, donc on vivait sur le salaire de ma mère, quasi, hein, parce qu'il débarrait
son entreprise. Elle travaillait dans une agence de voyage, c'est
ouais.
ça?
Et ça s'est soldé au bout de 18 mois, 24 mois, mais il a fallu tenir ces 18, 24 mois par une promotion du gars ailleurs. Je parlerai pas de l'employeur. Mais j'ai vécu ça, j'avais 13 ans, et j'ai vécu ma mère malheureuse d'aller au boulot, angoissée, se disant « est-ce que je vais perdre mon job ?» Parce que, évidemment, hors de question de craquer. Donc je suis très sensible à ce sujet. Et oui, ça m'est arrivé une ou deux fois, mais quand vous avez les outils, en l'occurrence, par exemple, l'humour, en disant « écoute, non, on va pas tout mélanger, stop. »
Ça s'arrête, vous pensez?
Ben,
ou vous avez l'autorité, vous, pour
voilà.
que ça s'arrête.
Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est pour moi quelque chose d'aussi important à combattre, parce que quand vous n'avez pas les outils, que vous êtes en position de faiblesse, ce qui était un peu le cas à l'époque où c'est arrivé, là, vous n'êtes pas bien du tout. Et ma mère est quelqu'un d'extrêmement courageux, que j'estime énormément, et elle a su dénouer ça, mais elle était dans une position, quelque part, beaucoup plus délicate que moi, quand ça m'est arrivé.
Parce voilà. que c'était son supérieur hiérarchique.
Oui.
Ça l'a cassé, votre mère?
Pas du tout. Oh, alors, ma mère, pas du tout.
C'est une femme puissante, votre mère?
Ah oui. Et ma grand-mère était une femme très puissante aussi. Nous, on est dans le matriarcat, quand même. Hein.
Votre père?
Ah, mon père est un type formidable. Alors, j'ai partagé plusieurs choses avec mes parents, mais des choses un peu différentes. Ma mère, c'était beaucoup... J'adorais quand elle partait en voyage. Elle voyageait seule, puisqu'elle était agent de voyage. Donc, elle me parlait de ses voyages, de ses lectures, etc. Et mon père, c'était le sport. On partageait le sport
le
ensemble.
Le ski, le ski.
Ah oui, ah oui, mon
Alors,
père
avant le ski, vous allez ça. Quand même me dire quelle ouais. est la chanson que vous avez choisie ah. qui incarne les femmes puissantes.
Alors, j'ai choisi London Grammar et j'ai choisi une chanson qui s'appelle Lose My Head. C'est leur dernier album. C'est Anna Red qui est la tête du groupe. Elle a eu pas mal de problèmes pour s'imposer dans le monde de la musique, parce que vous parliez du monde de l'entreprise, mais le monde de la musique, les femmes sont pas très bien traitées. Et pourtant, il y a une génération d'artistes femmes extraordinaires en ce moment.
Oui, parce qu'il faut dire que Catherine Guilloire est patronne de la RATP et NARC est absolument fan de rock.
Absolument.
Et connaisseuse pointue, voilà. aiguë du rock.
Et j'adore ce morceau et je voulais quelque chose d'énergétique avec une belle voix. Donc, Anna Red, London Grammar.
On y va.
I need to learn when this thing called love, when it's a mirror, baby. Can you see all those parts of me broken across the world? I need to find some kind of peace of mind. It's a demon, baby. Friend, have you got a friend?
Femme puissante, Léa Salamé.
Lose Your Head de London Grammar, le choix de Catherine Guilloire.
Sur France Inter.
D'ailleurs, vous lisez Rock'n'Folk, là, je vois Rock'n'Folk sur la table posée devant moi.
Ah, parce que le type qui est dessus, là, sur la pochette.
Divine Comedy.
Ouais, c'est Nala Aynon. Et quand j'étais à Bercy, avec deux copains de Bercy, on voulait remplacer les enfants du rock. On avait travaillé sur une émission qu'on avait appelée Europop, parce que c'était le premier disque de Nala Aynon qui s'appelait Libération. On est allé voir les banques pour financer un V0. Mmh. Et finalement, on l'a pas fait parce que moi, je sortais de Bercy très tard le soir. On se réunissait chez moi ou chez eux. On avait structuré l'émission. J'ai gardé d'ailleurs le pilote dans mes cartons. Et dedans, à l'époque, vous voyez déjà, dans la segmentation de l'émission, il y avait une partie, les femmes dans le rock, etc.
Ah, donc, ouais, voilà. Punk déjà.
Voilà.
Souvent, les femmes de pouvoir gomment leur féminité, des pantalons, pas de talons, pas de bijoux. C'est votre cas ?
Alors, moi, je suis pantalon, mais parce qu'en fait, en étant ex-sportive, l'addition est chère quand même. Trauma crânien, coude déboîtée, le ménisque fracassé et quatre fois les chevilles avec ligaments arrachés. Les Louboutins, c'est pas pour moi. Mais en revanche, j'aime bien porter quelques bijoux.
Faut pas forcément utiliser les codes masculins pour se faire respecter.
Non.
Alors, le ski ?
Oui.
Alors, le ski, vous avez enchaîné les compétitions, vous adorez ça. Qu'est-ce que le ski vous a appris pour diriger, pour le pouvoir, pour la puissance ?
Alors déjà, je pense que c'est un sport de résilience. Un jour, la course, c'est de la neige molle, ça va être à peu près facile. Des fois, c'est du béton armé, il peut faire moins 30. Donc c'est une vraie adversité des éléments. Et puis, c'est un mélange de précision et de folie. Chaque fois que j'ai un événement très important à gérer sur le plan personnel, j'essaye de me remettre, par exemple, quand je préparais une compète au dernier moment, vous savez, la dernière minute, où vous avez la cabane de départ, derrière c'est le vide, vous commencez à vous déshabiller, vous serrez vos crochets, et vous commencez à avancer, vous tapez vos bâtons et vous passez les bâtons derrière le portillon. Et là, toute l'adrénaline qui est en vous se concentre, vous montre au cerveau, et c'est le moment de tout lâcher. Et ça, c'est un truc qui me manque encore aujourd'hui. Et de temps en temps, ben, quand je veux me décontracter, je rêve que je skie. Certains font du yoga, moi je fais des pistes virtuelles. Voilà.
Je voudrais vous faire écouter, juste pour terminer, oui, ce que dit Elisabeth Badinter de ce qui est à ses yeux la femme puissante, ou celle qui serait la femme puissante aujourd'hui.
La femme la plus puissante du monde aujourd'hui serait la patronne de Google avec deux enfants. Voilà. Et là, elle aurait tout. Elle aurait la puissance maternelle, une responsabilité inouïe du point de vue professionnel. Elle aurait aussi une puissance économique majeure, on peut le dire. Donc voilà, ça serait pour moi une femme puissante.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, je comprends pourquoi Elisabeth Badinter qualifie comme ça la femme puissante. Moi, je pense qu'on peut être une femme puissante sans forcément être mère. La maternité, après tout, l'ultime liberté, c'est de choisir d'en être ou de ne pas l'être. Mon parcours de vie a fait que je n'ai pas d'enfant. Je ne me sens pas pour autant amputée de quoi que ce soit. C'est vraiment un choix, quoi.
Une femme peut-elle autant qu'un homme, comme un homme, avoir une grande carrière, une vie amoureuse, une vie d'engagement ?
Bien sûr.
Tout pareil ?
Tout pareil.
Autant ?
Oui.
Il n'y a pas plus de sacrifices à faire quand on est femme ?
Oui, il y a sans doute des sacrifices à faire, mais je pense que les hommes en font aussi des sacrifices quand même. Hein.
Quelques questions de fin pour terminer, vous répondez spontanément,
oui,
ou pas.
Oui.
La suppression de l'ENA, c'est bien ou c'est des magots ?
Ah ben moi, sans l'ENA, j'y suis arrivée petit à petit. C'était pas du tout dans mes gènes d'origine de le faire. Hein. Bon, mais ça a été un ascenseur social. Donc, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, j'aurais sans doute pas été là s'il n'y avait pas eu l'ENA.
Vous êtes un homme pendant 24 heures, vous faites quoi ?
Eh bien, j'ai pas envie d'être un homme pendant 24 heures, sauf à être Orlando de Virginia Woolf. Parce que Orlando, il est né au XVIe siècle. Il s'est transformé en femme dans le roman d'Orlando à 32 ans à l'occasion d'un rêve bizarre. Il a fini au XIXe siècle en étant un écrivain célèbre. Ça m'amuse beaucoup, ce genre de trip. Donc,
j'ai cru que c'était Orlando le...
Non, pas le frère de Dalida. Donc, dans un personnage de roman, voilà.
Vous êtes plus droite ou plus gauche ?
Oh là là, j'aime pas parler de politique, mais sur les valeurs, je dirais clairement à gauche. En revanche, j'aime pas l'économie administrée, honnêtement. Donc je suis une libérale sociale, on va dire.
Les Stones ou les Beatles?
Oh, définitivement les Stones. Ouais.
Angela Merkel ou Kamala Harris?
Angela Merkel.
Bernard Arnault ou François Pinault?
Pour la collection d'art, allez, François Pinault.
Est-ce que vous êtes mondaine?
Non.
Est-ce que vous avez beaucoup menti dans cet entretien?
Absolument rien.
La question Jacques Chancel pour terminer. Et Dieu dans tout ça?
Moi, je suis comme les Japonais. J'aime beaucoup leur vision de la religion. Je suis née dans le catholicisme. Je suis pas du tout pratiquante. Au Japon, vous avez l'animisme qui croit qu'un arbre est un esprit. Vous vous mariez dans le shintoïsme et vous mourrez dans le bouddhisme. Donc j'adore ce genre de balade spirituelle. Je suis plutôt, voilà.
Mystique, mais pas croyante.
Ouais.
Merci Catherine Guilloire.
Merci beaucoup Léa Salamé
merci
pour cet entretien.
Merci de nous avoir reçus chez vous.
Merci.
Elles auraient pu se dire tant de choses, mais le train est déjà arrivé. J'aurais souhaité que jamais ne se pose leurs pieds sur ce grand quai.
C'était Souterrain de Cassidy sur Inter. Cette émission était préparée par Paola Puerari, Alexandre Gilardi, Marie-Elisabeth Jacquet et Alexandra Brouillet. À la prise de son, Frédéric Cairou. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. À la réalisation, Hélène Biziot.